Salut tout le monde, c'est Isabelle Saint-Jean, kinésiologue du blog EasyActive.com. Aujourd'hui, je vous présente mon deuxième podcast en lien avec le mois de la nutrition. Donc, dans mon premier podcast, j'avais invité mes amis pour qu'on partage nos expériences en lien avec nos habitudes alimentaires, puis ça à travers notre parcours sportif. Donc, j'espère que l'information que vous avez reçue, les expériences qu'on vous a partagées, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a peut-être donné des idées à appliquer vous-même dans votre quotidien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi deux personnes qui vont nous éclairer encore plus sur le sujet. Donc, j'ai invité avec moi deux nutritionnistes. D'abord, Madonna Ashkar, nutritionniste diététiste et porte-parole des diététistes du Canada, représentante également dans la région de Montréal. Donc, Madonna, salut!
Salut Isabelle, merci pour l'invitation!
Super! Et je suis aussi avec Joëlle Kairala, nutritionniste diététiste au Centre d'expertise en maladies chroniques et cliniques. Et dans la clinique de médecine familiale à la polyclinique Maisonneuve-Rosemont. Joëlle, merci d'être avec moi aujourd'hui.
Salut, merci à toi.
Super, donc les deux sont membres de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec et membres des diététistes du Canada. Donc je suis vraiment choyée aujourd'hui d'être en votre compagnie. Puis c'est le fun aussi parce qu'on s'est toutes rencontrées au travers de notre Silus Plus, qui est un réseau de professionnels aussi d'entraînement puis de nutrition. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on explore avec vous le sujet du mois de la nutrition par les diététistes du Canada, donc de retirer le combat avec qu'on peut vivre parfois ou avec notre alimentation. Donc Madonna, je voulais d'abord que tu nous expliques c'était quoi la mission des diététistes du Canada en ce mois-ci de la nutrition, puis pourquoi vous avez décidé d'exploiter ce thème-là en particulier.
Très bien, donc mars en fait est le mois de la nutrition et les diététistes du Canada mène la campagne du mois de la nutrition depuis plus de 30 ans.
Okay.
Et cette année, les diététistes du Canada, on veut aider les gens à mettre fin à leur combat avec les aliments grâce à une approche simple et pratique.
Ok, parfait. Je sais que vous avez plusieurs thématiques que vous allez exploiter dans le mois.
Exact.
Je pense que semaine par semaine, c'est dans votre habitude d'aborder certains thèmes.
Donc, exactement.
On va rejoindre beaucoup de gens
vraiment.
De beaucoup de façons différentes comme ça.
Oui, tout
excellent.
À fait.
Donc, à qui est-ce que cette campagne-là s'adresse exactement?
En fait, cette campagne s'adresse à tout le monde. On sait très bien que les combats avec les aliments sont courants chez la population, notamment chez les personnes qui ont des ballonnements ou les personnes qui vivent avec des maladies chroniques, comme par exemple le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiovasculaires aussi.
Puis est-ce que, j'imagine que ça s'adresse aussi en général, à la population en général également, là. On vit tous à un certain point une espèce de certaines difficultés à certains moments de nos vies, par exemple?
Tout à fait.
OK.
Oui, exactement.
Puis toi, Joëlle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus?
C'est juste d'ajouter aussi qu'on parle des gens qui s'enlignent vers l'alimentation pour le stress. On a aussi une petite partie pour les enfants qu'on appelle les picky eaters. Donc, c'est ça. À chaque semaine, il y a une thématique. Il y a aussi les modes alimentaires. Donc, c'est quoi la mode? Qu'est-ce qu'on va aller? Est-ce que c'est les shakes, la mode de détox? Des trucs comme ça.
OK, parfait.
Le thème est choisi en fonction des commentaires des membres et aussi en fonction des commentaires des consommateurs.
Okay.
Et les diététistes qui travaillent en centre d'appel reçoivent souvent des questions de la part de la population à travers tout le pays, à travers tout le Canada.
Okay.
Et les cinq problématiques qui sont le plus rencontrées, ce sont les problématiques qu'on a décidé de mettre de l'avant à travers le mois de la nutrition.
OK, parfait. Puis, j'imagine que vous aussi, dans votre pratique personnelle, c'est le genre de choses que vous entendez régulièrement aussi.
Vraiment, oui, tout à fait. Les gens arrivent avec des exemples de sujets ou des complications au niveau digestif, par exemple, ou les mangeurs difficiles. Mm-hmm. En fait, on sait que 25 à 35% des enfants sont reconnus comme étant des mangeurs difficiles de la part de leurs parents.
Okay.
C'est quand même une grande partie de la population.
Donc, c'est les parents eux-mêmes qui admettent ou qui disent que leur enfant est difficile sur certaines choses. Quand on parle de picky eaters, donc on n'aime pas certains aliments, c'est quoi exactement, Joëlle?
C'est exactement ce que tu dis. Mm-hmm. Ça peut être manifesté dans des différentes façons. Soit d'avoir aussi comme avoir un combat, j'aime pas cet aliment, on est obligé de manger ça, je veux pas.
OK.
Des trucs comme ça.
OK. Puis toi, dans ta pratique, soit clinique ou au gym, chez Nautilus Plus, mm-hmm. C'est quoi le genre de problématiques avec lesquelles les clients arrivent en général, que tu vois le plus souvent?
Bon, moi, c'est vraiment beaucoup de cas que je vois. C'est des gens qui ont des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, des troubles digestifs, parfois des intolérances. Je vois aussi des gens en nutrition sportive, ça peut être perte de poids, gain de masse. Mm-hmm. Et souvent, c'est les problématiques qu'on parle, puis le sujet de Diététiste de Canada, c'est de cibler le problème. Et okay. Parfois, il y a beaucoup de cas où les gens, ils se rendent pas compte de leurs problèmes, sauf en parlant, en consultation. Là, ils vont aller voir, c'est ça mon problème.
À force de creuser dans le sujet, hein. Des fois, on arrive à des questions de base,
exact.
En sachant, bon, qu'est-ce qu'il faudrait que je mange à peu près, tout ça. Puis, en tentant d'effectuer ces changements-là, c'est là qu'on se rend compte que, wow, il y a des choses qui bloquent ou il y a des choses qui...
Exactement.
Qui sont pas aussi faciles que ça le semble, en fin de compte. Fait qu'après ça, on peut vraiment aller creuser un peu plus dans
exact.
Le...
Exact. Puis parfois aussi, il y a des gens qui arrivent, qui veulent changer beaucoup de choses mm-hmm. Et qui ont beaucoup, beaucoup de problématiques. Et là, c'est en les mettant vraiment, en les sortant, en reconnaître c'est quoi les problèmes. Mm-hmm. C'est la seule façon de pouvoir les aider comme professionnels de santé et okay. leur montrer qu'on est là pour eux, que ces problématiques, une fois qu'ils sont ciblés, il y a des trucs pour ça. On est vraiment formés pour les aider à travers tous leurs problèmes, les petits problèmes qui peuvent
c'est
être...
C'est ça au quotidien, en fin de compte.
Exactement.
Okay. Excellent. Donc, est-ce que ça, cette espèce de... Ces difficultés-là, avec notre façon de nous alimenter, ça a un impact, j'imagine, au niveau social, plus vraiment global. Quel genre d'impact est-ce qu'on peut voir dans la population canadienne?
Très bonne question. En fait, oui, c'est sûr que ça peut avoir un impact au niveau social. On mm-hmm. mange au moins 3 fois par jour, en général. Alors, oui. manger peut être des fois une source de confusion okay. ou même de frustration. Et d'après les statistiques qu'on a, mm-hmm. près de 50% de la population se tourne vers Internet mm-hmm. lorsque les gens ont des questions par rapport à la nutrition. Donc ça, c'est quand même beaucoup. C'est une personne sur deux. Et des okay. fois, on n'a pas des informations crédibles basées sur les sciences. Donc c'est pour ça qu'on est là comme professionnels de la santé pour aider les gens à vraiment enlever toutes ces confusions, enlever toutes ces mm-hmm. frustrations de leur tête pour retrouver le plaisir de manger.
Mais la source de la confusion, la source de la frustration, c'est je trouve que c'est avant toute chose, parce que là, ce que je vois, c'est que l'impact que ça a sur les gens, c'est que là, on veut trouver une solution, on veut trouver des réponses, donc on va peut-être se tourner vers une source qui est d'information qui est rapide, qui va nous donner grosso modo ce qu'on cherche à savoir, mais qui n'est pas toujours fiable nécessairement, ou on ne se retrouve pas nécessairement toujours au bon endroit. Mais à la base, la source de la frustration puis de la confusion, tu dirais que c'est quoi?
La source de la confusion, ça pourrait ouais. être le problème que les gens rencontrent, donc les signes physiques, par exemple les ballonnements.
Okay.
Ou ça peut être, par exemple, la personne qui est diabétique, ne pas pouvoir gérer son diabète,
okay.
avoir toujours une glycémie ou un taux de sucre dans le sang qui est très, très élevé. Ou, par exemple, quelqu'un qui est frustré ou stressé à son travail,
ouais.
qui rentre en fin de journée, qui est très fatigué, qui se tourne vers les aliments. Pourquoi? Parce que des aliments faciles, rapides à manger. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de cuisiner. Le manque de temps est en fait une source de frustration
ah,
que l'on
oui.
rencontre énormément en pratique depuis les
okay.
ces dernières années.
Okay,
et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça engendre? Ça peut engendrer que la personne va manger une très grande quantité d'aliments mm-hmm. sans nécessairement s'asseoir à table. Et par la suite, ça peut créer justement de la frustration.
Okay.
Donc,
enfin, il y a toute une série de comportements en fin de compte qui dérivent de ce manque de temps-là. En fin de compte, on ne choisit pas les bons aliments, on ne prend pas le temps de manger, oui. on ne se rend pas compte des sensations de faim qu'on a. Après ça, on se retrouve à avoir mal récupéré ou à être encore fatigué. Donc là, c'est là que la confusion puis la frustration se renforce, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Et ça, c'est juste un des facteurs qui est en lien vraiment avec l'alimentation. Mais on doit garder en tête qu'il y a plusieurs facteurs qui affectent notre alimentation.
Exact.
On parle de facteurs biopsychosociaux. Donc, oui, il y a la génétique, il y a les comportements alimentaires, il y a l'environnement. Tout ça, ça influence nos choix alimentaires à tous les jours.
Exactement. Donc là, ça crée... Juste la façon que tu le dis, déjà, on dit, bon, OK, où est-ce qu'on donne la tête à partir de là, tu sais? Donc, c'est sûr que... on essaie d'aller chercher l'information, puis là, on se retrouve face à pas nécessairement la bonne information. Donc, ça, c'est un genre d'impact qu'on oui. voit dans la population, très bien.
Et justement, quand tu parles de pas bonne information, ça peut être grave, les conséquences que ça peut avoir. Je vais juste donner un exemple.
Oui,
Une personne qui a des problèmes digestifs et...
Comme quoi, par exemple?
Des ballonnements,
Des
des gaz,
ballonnements,
des douleurs abdominales, des douleurs au ventre, décide, suite à une lecture sur Internet, d'enlever le pain, les pâtes et le
On voit ça
gluten.
souvent, hein? Ouais,
Exactement,
c'est
c'est
ça. Ça,
vraiment...
c'est.
Oui.
On voit. Ben, non seulement c'est la première chose qu'on voit quand on clique ballonnement, là,
Oui.
déjà. Puis, ça semble. En plus, ces aliments-là, déjà, dans notre inconscient, notre subconscient, c'est des aliments que beaucoup de gens pensent qu'on n'est pas supposé manger ou le moins possible, là, les PPP, les pâtes, les patates, le
Oui.
pain, tout ça. Donc, si en plus on leur donne la responsabilité de nos ballonnements ou de notre mal-être physique,
Oui.
Bon, ben là, voilà, sont bannis. Mais c'est pas nécessairement ça le problème.
Exactement. Et ça, c'est vraiment juste suite à une lecture sur Internet. Donc, c'est pas une source
Exact.
nécessairement fiable ou crédible.
Ouais.
Par la suite, cette personne-là qui décide d'aller voir son médecin, va faire un test de dépistage pour voir si elle a une maladie cœliaque, par exemple. Et le test de dépistage doit être précédé d'une période où la personne consomme du pain et du gluten. Donc, si
Ah,
jamais cette
exact.
personne-là l'enlève avant de faire le test, ça peut fausser les résultats.
Ah, tu vois.
Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien encadré, aller voir les professionnels de la santé, aller voir des personnes crédibles basées sur la science qui vont donner des conseils spécifiques selon la condition médicale. Donc,
Suite à une évaluation aussi, c'est
exactement.
ça.
Oui.
Du cas particulier.
Oui.
Exact.
Juste pour ajouter à ça, c'est un
Oui.
peu en parlant des petites problématiques, en parlant justement de l'élimination des aliments que Madonna a écrit. Dans un autre contexte, on se rejoint tout le temps à voir qu'est-ce que nos amis ont fait,
Ouais.
qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Souvent, on s'aligne beaucoup aussi à travers les régimes ou les diètes. Et je dis ça entre guillemets parce
Oui.
que c'est des mots qu'on n'a pas utilisés comme diététiste en
Non,
fait.
non, non, mais non, absolument
Donc,
pas.
c'est ça, on y va plus dans l'élimination, dans la privation encore. Donc ça mène aussi à avoir plus de combats avec les aliments. On a souvent tendance à dire, mon non, ça c'est des bons aliments, des mauvais.
Exact.
Et puis ça encore, ça va créer un combat. Le combat, ça va mener à avoir plus de stress. On est dans la privation. Puis là, on va aller se résoudre. En fait, mais on va aller, après avoir éliminé plusieurs aliments, avec plus de frustration et de stress,
Ouais.
ça va nous faire plus d'autres
Donc
problèmes.
c'est un espèce de cercle vicieux en fin de compte.
Exact,
C'est
on est dans un
continuer.
cercle vicieux, tout à
Exact.
fait, tout à
Donc
fait.
c'est ça. On sent peut-être de la confusion ou de la frustration sur quelque chose. On met la faute sur un aliment, sur une façon de s'alimenter.
Exact.
On se prive, on coupe certaines choses, on enlève. Dans le fond, on coupe, hein? On coupe,
Oui,
on coupe, on coupe.
on coupe. Et ça augmente le stress, et même le sentiment de
Exact.
culpabilité. Oh my God, j'ai mangé tel aliment, je ne devais pas.
OK.
J'étais dans un contexte social, on avait parlé, il y avait la fête de ma fille ou la fête de mon ami, puis je pouvais pas
C'est
manger.
ça, ou je pouvais pas m'en empêcher. L'inverse aussi, j'en ai pris. Oh
Exact.
non, je me sens coupable.
Exact.
Tout ça, en fin de compte, puis ça revient à ce qu'on disait, tout ça, en fin de compte, parce qu'une source non fiable, non adaptée à notre situation, nous a dit
Tout à fait.
de ne pas manger un certain aliment, quand dans le fond, on ne sait même pas si ça nous concerne ou.
Exactement.
Exact.
Oui. Ça, on le voit aussi à travers les années. Les personnes qui essayent des diètes ou des régimes, comme a dit Joël, des mots qu'on n'a pas vraiment employés, mais qui éliminent beaucoup d'aliments, on voit leur poids changer beaucoup à travers les années. Une perte de poids suivie d'une augmentation. Et ça affecte quand même beaucoup une grande partie de la population aujourd'hui. Et la diète, c'est pas vraiment du tout la solution à tout. Donc, ce qu'on propose comme solution, c'est plutôt d'y aller avec une approche simple en trois étapes. De cibler le problème, de voir qu'il y a une problématique avec les aliments, de se renseigner à partir de sources fiables, comme par exemple, vous avez le site Internet des diététiques du Canada où il y avait
Exact.
beaucoup, beaucoup de ressources vraiment crédibles, et de demander de l'aide grâce à un professionnel de la santé.
Exactement. Donc, tu disais, oui, c'est ça, tu disais à propos des diètes puis des poids, tout ça. Ça, c'est le genre de choses qui crée des combats à la longue.
Tout à fait,
Ah, après ça,
exactement.
on se
Ça peut
retrouve.
être une source, oui.
Moi, je trouve que ce qu'on voit souvent, c'est ça. J'ai tout essayé, j'ai tout essayé, toutes les diètes, j'ai repris ce poids-là, puis c'est parce que Puis là, je vais... ça, c'est un point sensible pour moi, là, je vous dis, là, c'est qu'on donne l'information, on joue sur les codes sensibles des gens, OK, les sites de diète, puis de régime, puis tout ça, puis en 10 jours, puis 20 livres, puis whatever. Mm-hmm. Puis on donne l'information, on joue sur cette code sensible-là. Implique les gens dans ce genre de processus-là qui est hyper néfaste en leur donnant pas la bonne information de ce qu'eux ont besoin. Vous allez voir sur mon site internet, j'ai écrit un article, j'ai fait une parenthèse, parce que j'avais une de mes collègues qui m'avait dit qu'apparemment, à la mode, c'était que les femmes, on devait manger 1200 calories par jour pour perdre du poids. Puis apparemment, c'était quelque chose de commun qu'on voyait sur Internet. 1200 pour les femmes, c'est commun, quand c'est complètement erroné. Donc, si vous voulez aller sur mon site Internet pour en lire un peu plus là-dessus, easyactive.com, pour lire un peu là-dessus, que je vous explique pourquoi c'est complètement aberrant. Mais ce genre d'information qu'on reçoit qui est inadapté à nous, on entre dans ce processus-là qui est une spirale. Finalement, on perd du poids qui n'est pas du bon poids, on se prive, on vit énormément de frustration pendant le processus. On arrive au bout, on reprend le poids qui a été perdu parce que c'était pas une façon saine, exactement comme tu dis, de s'alimenter. Ça crée encore plus de frustration, ça crée encore plus de confusion parce que là, on sait pas où se revirer en fin de compte. Donc, c'est vraiment, encore une fois, on revient à dire le cercle vicieux en fin de compte.
Tout à fait. C'est pour ça que, en fait, ce que Madonna a dit, est une solution, ça serait vraiment de parler avec une diététiste, de voir, parce que même la quantité de calories ou quoi que ce soit, c'est vraiment très individualisé. C'est vraiment chaque personne. On regarde beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs qui affectent. On regarde même la routine de chaque personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une famille, le manque de temps. Mm-hmm. C'est des petites choses qu'on est là pour aider avec. Et c'est vraiment... c'est vraiment de ne pas aller prendre les choses pour monsieur, madame, tout le monde et d'essayer d'appliquer ça sur nous-mêmes.
Exact. Il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte, puis c'est bien pour ça qu'on a autant de misère à voir clair là-dedans. C'est à cause de tous ces facteurs-là. Donc, on ne peut pas prendre le problème avec seulement une paire de lunettes, puis essayer de régler le problème au complet d'une seule façon, avec un seul facteur en ligne de jeu. Puis c'est ça que les diététistes nutritionnistes vous faites. Oui. C'est que moi, je dis souvent à mes clients qui me disent: oh non, mais je mange bien. Oh non, mais tout ça, ça va. À quoi ça va me servir d'aller voir un nutritionniste? Puis, c'est pas juste une question de savoir, d'avoir un plan alimentaire, tu vas manger ça, 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 ça. Non, c'est de qu'est-ce que tu manges quand tu pars en voyage d'affaires? Qu'est-ce que tu manges le matin si tu t'entraînes le matin? Puis, pas juste qu'est-ce que tu manges en quelle quantité. Puis, c'est surtout qu'est-ce qui fit le mieux avec qui tu es, tes goûts personnels, ta composition corporelle, tes objectifs, ton horaire, puis comme tu dis, comment ça se passe chez toi, est-ce que c'est toi qui fais la cuisine, est-ce que tu as une famille, est-ce que... Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que vous abordez le sujet d'une façon vraiment qui couvre tous les aspects, qui parle pas juste de nutrition en tant que telle, mais qui parle vraiment des habitudes de vie de la personne.
Exactement, tout à fait, Isabelle. C'est comme vous avez dit, on prend en considération tout, l'historique médical, l'historique de poids de la personne. Ouais. On regarde ses habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'elle mange le matin, qu'est-ce qu'elle mange, est-ce qu'elle a un horaire de repas régulier ou non, est-ce qu'elle voyage beaucoup.
Rarement, avec les gens qu'on travaille au centre-ville, rarement régulier aussi.
Ouais, oui, exactement. Ça. Donc, tous ces facteurs-là, on les prend en considération pour pouvoir apporter des solutions pratiques par rapport à l'horaire, par rapport à la réalité de chacun.
Mm-hmm. Oui, je veux juste ajouter un petit quelque chose qu'on commence à regarder beaucoup, et ça, c'est quelque chose qui peut affecter combien on mange, qu'est-ce qu'on mange. C'est en fait comment on mange aussi. Est-ce que je mange en travaillant sur mon bureau vite, je mange en transport, j'ai un meeting, j'ai pas eu le temps de manger, là je vais prendre n'importe quoi, un sandwich, je mange en retournant chez moi, dans mon auto. Comment je mange, est-ce que je suis assis, est-ce que je suis en train de savourer mes aliments, est-ce que je suis en famille, assis sur ma table avec mes amis. Donc on appelle ça les comportements alimentaires. Donc le comment je fais ça, c'est un peu abstrait, mais c'est un très gros, c'est un très gros sujet.
Abstrait, tellement pas. Je trouve que même que si on peut résumer ça, je trouve tellement que manger, c'est comme une tâche de trop dans une journée. J'ai pas le temps de manger, tu sais. J'ai tellement de choses à faire. Ou, comme tu disais, on prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, de ressentir ou notre sensation de faim ou de prendre le temps de faire des bons choix puis d'être. Parce que c'est un peu ce que je soulevais avec mes amis dans le podcast, le premier podcast, c'est à quel point ça peut être positif et le fun de bien manger puis de préparer ces choses. C'est pas. Que ce soit pas vu comme une tâche, quelque chose de compliqué, tu sais. Oui, Madonna.
Tout à fait. En fait, manger est agréable. Manger est une activité agréable. On apprécie.
On passe tout droit, malheureusement.
Exactement. Qui aime pas manger? C'est vraiment. Les aliments, on veut vraiment prendre le temps de les savourer, d'y goûter et même de les préparer aussi. Exact. De prendre le temps d'aller choisir ces aliments nous-mêmes, aller à l'épicerie et de préparer les aliments et de les savourer finalement et prendre le temps de les savourer, ça c'est ultra important.
Donc ça c'est une autre source qu'on se rend pas compte de frustration qui est encore la spirale vers le bas, tandis que si on prenait ce genre d'habitude-là de faire l'épicerie par exemple, déjà on réglerait beaucoup de problématiques qui arrivent down the road, comme on dit en anglais. Oui.
En parlant de cibler le problème, ça peut être, juste un petit problème en lien aussi avec les troubles ou les symptômes, on va dire, digestifs. Quelqu'un qui mange très, très rapidement, quelqu'un qui mange qui mastique pas trop bien, ça c'est quelqu'un qui, ça peut être assez simple que ça, tu sais, ça peut, juste en faisant une petite réflexion, ça peut être un petit cause.
Puis une analyse, il faut se rendre à cette analyse-là, puis c'est là que vous entrez en jeu, c'est ça que je trouve. C'est pas le genre de choses qu'on dit, ben voyons, pourquoi, parce que je mange trop vite, là, c'est ça que j'ai de la misère à digérer pendant tout l'après-midi, et oui.
Ça en fait, 90% des gaz qui se retrouvent dans notre système digestif proviennent de l'air que nous avalons.
OK.
Alors, si on...
Oui. Tandis qu'on aurait pu dire, ben non, c'est le gluten aussi.
Oui. Tolérance à la lactose.
Exactement. Ben, je mange le gluten, voilà. Oui. Puis, je mange le pain.
Exactement, alors que des fois, juste le comportement, prendre le temps de manger plus lentement permettra de moins avaler de l'air ou pas boire une boisson gazeuse avec le repas.
Ou pas parler au téléphone en même temps que tu manges parce
exemple.
Que tu prends de l'air en même temps parce que tu parles. C'est intéressant, c'est vrai. Bon, là, souvent, on rentre vraiment dans le vif du sujet de choses qu'on fait à tous les jours puis qu'on se rend pas compte que ça peut. Juste ces petits ajustements-là. On parle pas de révolutionner notre. La façon dont on mange, là, on parle juste de changer des petits comportements, puis déjà, on peut régler beaucoup de problèmes ou de difficultés qui arrivent par la suite. Donc, là, on en a parlé pas mal là, de comment la thématique du mois de la nutrition, quand vous rencontrez des clients en consultation, vous sentez le combat qui est présent. Là. Est-ce que c'est toujours aussi, je pense qu'on a dit tout à l'heure que c'était pas vraiment tout le temps flagrant. Ce qui se passait, c'était plus avec la... en parlant au fur et à mesure que là, on découvrait certaines choses puis qu'on pouvait commencer. Dans le fond, ça vient à dire les trois étapes que tu as dit. Oui. Découvrir, c'est quoi la source du problème, en fin de compte. Puis ça, en consultation, vous le faites. Est-ce que c'est facile de trouver ça avec les clients? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que...
C'est en général, au début, on établit l'objectif. Quel est l'objectif du client? Quel est l'objectif de la personne? Si elle a une problématique, si elle a un comportement à changer ou si elle a une habitude alimentaire qu'elle veut changer, c'est en général la raison pour laquelle... Les gens viennent vers nous.
Puis, de quelle façon vous procédez pour amener les gens à tranquillement réfléchir sur ce qu'ils font ou sur si vous leur posez des questions, vous les faites réfléchir? C'est quoi votre plan d'action?
C'est ça. En fait, c'est beaucoup. On parle de partenariat professionnel de santé avec la personne devant nous. Donc, nous aussi, comme nutritionnistes, on y va tout le temps avec la priorité de la personne devant nous. C'est pour ça qu'on dit c'est vraiment très individuel. Okay. Parfois, on est prêt à changer une certaine habitude, mais on n'est pas prêt pour changer l'autre. Et on revient encore à cibler le problème. Mm-hmm. Donc, c'est aussi de faire des changements. C'est beaucoup, la nutrition est axée beaucoup aux habitudes. Aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires, même parfois des habitudes depuis notre enfance qui se retrouvent dans notre vie quotidienne, encore une fois. Donc, c'est ça, le truc, c'est d'aller avec la personne devant nous. C'est, comme Madonna a dit, c'est d'établir un objectif. Okay. Et le but, c'est, oui, de faire des changements. On reconnaît aussi que les changements sont pas faciles.
Ouais.
Et que parfois, en clinique ou dans le bureau, en parlant des choses, c'est beaucoup plus facile qu'en application.
Okay.
Et c'est pour ça que nous, on est ici pour résoudre les problèmes. Nous, on n'est pas ici quand, bon, j'ai perdu le poids que je dois perdre. Mm-hmm. On est ici pour résoudre les obstacles, les problèmes, et de parler de ça ouvertement avec la personne.
Ah ouais, ça, c'est un bon point.
Parce que souvent, on a même peur de parler avec la diététiste, la nutritionniste, parce qu'elle va me couper, elle va couper ce que je... Elle va me dire de ne pas manger telle affaire, ou... Si il y a quelqu'un qui a un nouveau diagnostic de diabète, par exemple, tu avais mentionné de couper les 3 P. Mais c'est ça. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui sortent du bureau qui me disent « Ah oui, ben bon, je peux manger des pâtes. »
Ah, tu vois.
Mais c'est sûr que vous pouvez manger des pâtes.
Donc, ça crée du bonheur aussi.
Tout à fait, c'est sûr. Ils se rendent compte en sortant du bureau qu'ils sont contents, ils vont continuer à pouvoir manger tous les aliments qu'ils aiment.
Ah, tu vois.
Mm-hmm. En faisant des choix appropriés, en ajustant les quantités et tout. Mais comme l'a dit Joël, c'est vrai qu'on entend de la part des médecins, les médecins nous disent que les clients ou les patients ont peur au début d'aller rencontrer un nutritionniste parce qu'ils craignent de ne plus pouvoir manger les aliments qu'ils aiment. Alors que là, on leur dit oui, c'est pas une question de privation. Au contraire, c'est une question d'ajustement. Mm-hmm. Ils vont continuer à manger tout ce qu'ils aiment.
Puis quand les gens vous arrivent avec des problématiques là, de digestion, ou bon, on va commencer à parler de ça plus en particulier, mettons. C'est quoi votre procédure pour intervenir sur cette personne-là? Est-ce que vous leur vous faites des tests? J'imagine que c'est ça que vous faites. OK, on essaie cette semaine, on essaie ça. La semaine prochaine, on essaie ça. Comment ça se passe en général?
En fait, on collabore beaucoup avec d'autres professionnels de la santé, comme le médecin qui établit le diagnostic s'il y a lieu.
Okay.
Sinon, oui, certainement, on fonctionne beaucoup avec des journaux alimentaires pour que la personne puisse identifier l'aliment qui est associé à son problème digestif.
En lien aussi avec le problème. C'est quoi les symptômes? Est-ce que c'est une constipation? C'est une diarrhée? C'est des ballonnements?
Ouais.
Est-ce que c'est en altérance? Il y a beaucoup de questions qu'on pose. Et c'est aussi, mais comme j'ai dit, à force de parler, à force parfois d'identifier, par exemple, des aliments, là, après avoir mangé, je ne sais pas, du brocoli ou des poivrons, là, j'ai de la misère à digérer ça, je me sens ballonnée, des légumineuses, sans vraiment mettre le point sur les aliments, mais ça c'est plus en santé digestive.
Ça
peut être des aliments qui produisent plus de gaz que d'autres.
Okay.
On est aussi, il faut dire qu'on est tous différents.
Mm-hmm.
C'est même la même personne qui fait, je ne sais pas, la diarrhée ou qui mange un aliment en particulier qui cause des gaz, ça ne veut pas dire que son ami aussi, ou ça...
Donc, si mon ami me dit « Ah, moi aussi, ça me fait ça, là, tu devrais regarder si c'est pas tel aliment ou tel aliment. » On peut regarder, mais c'est pas automatiquement l'aliment en tant que tel
qui est problématique. Oui,
non,
c'est pas nécessairement le même aliment qui va causer des gaz dans une personne et dans l'autre. Parfois aussi, beaucoup de problèmes digestifs sont reliés au stress.
Bon.
Et on voit quelqu'un, lorsque la personne est stressée, c'est une réaction automatique digestive.
Qu'est-ce que le stress provoque comme comportement alimentaire, par exemple, ou comme comportement ou comme effet sur une perte de poids qui ne fonctionne pas en fin de compte?
Donc le stress, une personne qui est très stressée, comme j'avais dit au travail ou à la maison ou dans d'autres environnements, peut être menée à, lorsqu'elle se retrouve à la maison en fin de journée, manger des grandes quantités d'aliments, qu'ils soient des aliments sains ou pas nécessairement n'importe quel aliment. En fait, ce que les personnes stressées peuvent aller chercher, c'est du réconfort avec les aliments. C'est ce qu'on appelle l'alimentation émotive ou l'alimentation émotionnelle.
C'est un sujet intéressant, ouais.
Exactement. Oui. Et puis, souvent, quand on mange certains aliments, comme par exemple des aliments qui contiennent des glucides, ça permet une libération de sérotonine.
OK.
Ça, c'est un neurotransmetteur qui est associé à un état de relaxation ou un état de bien-être.
OK.
Donc, c'est comme un cercle vicieux encore. La personne qui est stressée peut aller vers des aliments qui lui apportent du réconfort, mais après ça, c'est vraiment un autre...
Une autre spirale encore.
Oui, exactement.
Un service encore, là, on pourrait dire. De quelle façon est-ce que ça se transforme en combat?
Mais ça peut mener Bon, je suis stressée, je mange mes aliments de confort. C'est souvent des aliments, on les appelle à haute densité énergétique. Donc, des aliments qui sont très riches, comme exemple, chips, des muffins, des gâteaux. Souvent, c'est aussi en forme d'aliments que j'ai pas besoin de rien préparer. C'est quelque chose que j'ouvre et je mange tout de suite. C'est ça qui est
Parce
quand
qu'on
même
veut notre
apprécié.
réconfort, un
Tout de
réconfort
suite.
immédiat, ouais.
Exactement, immédiatement. Donc, c'est ça. Je vais aller chercher mon confort dans ces aliments-là. Ensuite, je vais me sentir coupable quand
Ah,
j'ai mangé
voilà.
ces aliments-là. Et ensuite, donc, quand je suis stressée encore une fois, mais là, j'ai senti bien quand j'ai mangé ça. Et que là, quand une source de stress retourne, on va retourner dans le même beat, dans le même comportement. Et ça peut créer un combat. À chaque fois que je me sens coupable d'avoir mangé quelque chose, ça va revenir, ça va revenir, ça va créer un combat avec ces aliments-là.
Puis, c'est ça, puis j'ai l'impression que non seulement, oui, à chaque fois c'est un combat, mais à un moment donné, si ça fait assez longtemps qu'on a ces comportements-là, ça devient une habitude. Puis moi, j'ai
Oui.
beaucoup de clients et de clientes qui le font sans même raisonner à travers ça. Tellement c'est un automatisme, tellement c'est. J'avais la main dans le popcorn avant que je m'en rende compte.
Oui,
Tu sais?
ça.
Donc là, le combat, il est encore. Surtout que si on a fait un processus de sensibilisation avec une nutritionniste, puis qu'on est dans le processus d'aller chercher les sources, puis de les régler, de les guérir, quand on se rend compte de nos automatismes, là, c'est rendu loin. C'est comme si je le fais sans m'en rendre compte ou sans avoir de bonnes raisons pour le faire. Donc là, le combat, il prend une autre tournure, j'ai l'impression. Parce que c'est pas. C'est plus, oh mon Dieu, je me sens mal quand je. C'est, my God, comment je vais me faire pour me sortir de ce genre de comportement-là?
Ça devient une habitude, justement. Donc là,
Exact.
l'objectif, est-ce que c'est de rester dans cette habitude ou c'est de changer cette habitude ou ce comportement? Ouais.
Et c'est pas facile. C'est pas
Non.
facile.
C'est pour ça,
On rentre.
justement, le fait de le reconnaître en premier est une première
Oui.
étape. Par la suite, de se renseigner et demander de l'aide à votre famille, à vos amis, à des professionnels de santé par rapport à ça.
C'est ça, les gens autour de nous qui peuvent nous supporter dans notre processus,
Oui.
mais vraiment des professionnels pour nous indiquer les étapes à suivre, puis la marche à suivre. Puis je pense que c'est un travail, écoute, les chemins neuronaux qui se font dans notre tête pour créer des habitudes aussi flagrantes, aussi importantes pour dire que je le fais sans m'en rendre compte, c'est des chemins qui sont solides, là. C'est des neurones qui sont solidement attachés ensemble, là. Donc là, pour essayer de défaire ce chemin neuronal-là, ça faut au jour le jour, pendant longtemps, essayer de changer les habitudes
Exactement,
graduellement.
exactement.
Donc là, à ce moment-là, vous accompagnez les gens là-dedans, puis on y va de stratégie en stratégie, puis essayez de prévoir les espèces de rechutes ou les moments où la problématique se présente, ou quand elle se présente, avoir des stratégies pour la gérer. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête, des stratégies que vous donnez à des clients sur des problématiques en
Ben,
particulier?
quelque chose de très important, c'est en fait de reconnaître que ce sont des habitudes qui datent possiblement depuis longtemps. Et c'est une fois que l'objectif ou la technique est mise en place, la personne doit aussi savoir que ça va jamais être parfait. Il y a beaucoup de gens
À
qui
faire la
vivent.
paix avec ça, hein?
Exactement,
Vraiment.
exactement. Et c'est en fait de se dire que, bon, moi, je ne sais pas, peut-être j'ai pas pu faire ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là, mais c'est pas grave. Tu sais, demain, j'ai encore 3 repas par jour, je vais
Exact,
essayer.
exact.
C'est de ne pas dire, oh my God, j'ai pas pu faire. Bon, j'ai gâché tout l'effort que j'avais fait. Non, il faut continuer, il faut savoir qu'il faut être patient. Et il faut être patient avec nous-mêmes aussi, parce que c'est pas facile, c'est pas facile. Et
C'est émotif aussi, hein? Il y a
oui,
des émotions reliées à ça
beaucoup,
énormément, donc
beaucoup, beaucoup.
c'est très confrontant
Oui,
pour quelqu'un.
il faut se donner le temps aussi. En fait, en faisant des petits changements, la personne va pouvoir se reconnaître plus. Et je reconnais, oh, oui, j'ai cette habitude, je ne savais pas que je faisais ça. Là, on commence à découvrir des nouvelles choses sur nos comportements, sur comment on réagit, sur les différentes choses.
Sur
Donc,
comment notre cerveau fonctionne en fonction de ce qu'il a vécu. Puis
Et de continuer, parfois, on essaye quelque chose, on pense que bon, ça va nous aider, mais en fait, à force de l'essayer, on trouve, bon, non, c'est pas ça ma solution. Ouais. Donc, on trouve différentes façons pour gérer ces comportements-là.
Exactement. Puis, c'est que c'est de se rendre compte, en fin de compte, la moitié du problème est réglé quand on a trouvé c'était quoi le problème, right?
Fait oui, que sans qu'on, gros,
Tant qu'on est dans le déni, là, ou qu'on on se rend pas compte de qu'est-ce qui se passe, on peut rien faire. Ensuite de ça, on se rend compte de ce qui est arrivé. Puis là, ce qui est bien important, moi, je pense, de ce qui est arrivé puis de ce qu'on fait, je pense que ce qui est bien important à ce moment-là, c'est comme tu dis, c'est d'avoir de la compassion pour nous-mêmes, de nous accompagner, de pas être trop dur envers nous-mêmes, oui. Puis de savoir que c'est un comportement qui est ancré, mais qui est pas à nous. C'est un comportement qui est acquis, mais qui s'est renforcé. Donc à ce moment-là, faut pas être dur, faut être le moins dur envers nous-mêmes autant que possible. Il faut essayer d'arrêter de résister cette habitude-là en acceptant oui, que c'est ça qu'on fait. Bon, puis d'essayer de mieux comprendre l'habitude en tant que telle, puis de savoir pourquoi elle se produit, d'essayer de mieux la comprendre pour mieux la gérer.
Tout à fait.
Sans essayer de la faire disparaître ou sans essayer de dire « elle est pas là ». Donc, c'est d'apprendre à trouver des façons de la gérer, parce que comme tu disais, ça sera jamais parfait.
Oui, c'est pas la perfection
puis
qu'on va
chercher. Il faut pas que ça soit parfait.
Non, oui,
non
c'est
plus.
Pas là.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc, est-ce que les gens quand viennent vous voir, bon, il y en a avec qui on doit découvrir c'est quoi, qui a une problématique. Sinon, vous diriez que les gens, ils se sentent comment vis-à-vis leur les difficultés qu'ils découvrent ou qu'ils savent qu'ils ont à la base? Comment les gens se sentent? C'est quoi les sentiments, les émotions que les gens vivent dans votre bureau?
Plusieurs émotions. On a des émotions tant positives que ouais, plutôt négatives. Donc, l'émotion du plaisir, de manger, de la surconsommation aussi.
Ah,
comme
oui,
on peut avoir, oui, tout à fait, l'hédonisme. Manger, c'est un plaisir. Des fois, c'est la surconsommation qui provoque beaucoup de plaisir chez beaucoup de personnes.
Uh-huh.
En même temps, chez d'autres personnes, c'est plutôt la frustration, la confusion. Donc, uh-huh, c'est vraiment beaucoup de...
Uh-huh. Moi, je sais que ça brasse dans les bureaux de nutritionnistes. Je me suis déjà fait dire qu'avec l'entraîneur, on parle d'entraînement, puis c'est go, go, go. Puis, mais à huis clos, dans un bureau nutritionniste, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, des choses beaucoup plus profondes, en fait.
C'est une partie très, très difficile pour beaucoup de gens. Et comparativement à l'entraînement, je viens au gym, je m'entraîne,
ouais,
mon heure est faite, bon, I feel good.
Oui, c'est ça.
Mais les autres moments dans la journée, comme Adonna a dit, on mange minimum 3 fois par jour.
Mm-hmm. Donc on
beaucoup...
est confronté à ça 3 fois par jour au minimum.
Il y a beaucoup de décisions à prendre. Qu'est-ce que je mange? Je complémente mon repas avec quoi? C'est quoi les portions que je veux ajouter? Donc c'est ça, c'est beaucoup de décisions à prendre. Puis nutrition, ça fait une très grande partie aussi sociale.
Ouais.
C'est aussi une raison, la nutrition, de manger. Manger, c'est une raison sociale, de se retrouver entre amis et famille.
Mm-hmm.
Donc c'est ça.
C'est ça. Puis, si je prends un autre ordre d'idée, là, si je vous demandais d'où est-ce que... On en a parlé, on parle de plein d'affaires, là, dans la même conversation, mais est-ce qu'on pourrait cibler certaines sources, dans le fond, des moments dans la vie, dans nos vies, qui font en sorte que... on se met à développer une situation problématique avec un aliment ou une façon de s'alimenter. Est-ce qu'on pourrait faire une liste de choses qui pourraient être des bons exemples que vous entendez souvent, qui ont fait en sorte que quelqu'un se retrouve dans une situation qui est difficile pour elle vis-à-vis de l'alimentation?
Premièrement, c'est éviter de priver ou d'éliminer un aliment sans raison fondée.
Toi, tu parlais aussi au niveau de l'enfance. Puis
Oui, c'est ça.
Le rôle des parents aussi, c'est important.
Oui,
vis-à-vis,
tout à
dans le fond,
fait.
La perception vis-à-vis de l'alimentation des parents,
ouais,
nécessairement, ça s'imprime dans
oui,
les comportements des enfants.
Tout à fait. On a des expressions qu'on entend parler tout le temps. Il faut que je finisse mon assiette.
Mm-hmm.
Et finis ton assiette. Si tu finis pas ton assiette, tu vas pas manger ton dessert.
Okay.
Il y a aussi le fait de trouver... Tu sais, c'est aussi une façon de comment le lien se fait entre l'alimentation et les émotions.
Mm-hmm.
Si quelqu'un est fâché, là, parfois les parents, pour réconforter la personne, là, tu es fâché, je vais te faire un bon gâteau, on va aller acheter des trucs pour manger.
Mm-hmm.
Donc, C'est ça, c'est des choses qui se développent. C'est juste des exemples, mais quelques exemples. Ça peut être manifesté autrement, mais ce sont juste des quelques exemples qui peuvent commencer à déclencher ou à mettre en sorte que ça soit, ça devient une habitude chez les enfants et que les enfants grandissent avec.
Puis dans le même ordre d'idée, en parlant de parents et d'enfants, les enfants imitent leurs parents. Souvent.
Oui. Voilà.
Donc, à table, le fait de juste mettre, par exemple, beaucoup de parents viennent en disant « Mes enfants n'aiment pas manger des légumes, ils ont de la difficulté à manger des fruits.
Mm-hmm. »
Juste le fait, ça peut prendre 8 à 15 expositions et même des fois plus du même aliment à table avant que l'enfant développe le goût ou la curiosité d'y goûter. Donc, des fois, juste le fait de mettre des légumes d'une façon différente ou d'une autre à table, même les fruits de façon colorée, et que les parents en mangent, ça va encourager les enfants à les imiter et donc en manger. Donc, ça se développe dès l'enfance.
OK.
D'avoir une attitude positive. Tu sais, les parents, quand ils ont une attitude positive à travers tous les aliments, c'est là où les enfants, ils vont être comme eux. Ils vont dire, oui, j'aime les légumes. Si les parents disent, non, il y a que j'aime pas ça, mais les enfants, ils vont avoir tendance à aussi faire la même chose. Donc, c'est vrai, c'est une...
OK. Donc, c'est des bons trucs déjà. En fait, juste, c'est général, mais une attitude positive, donc c'est pas précis, mais en même temps, c'est tout ce qu'on a besoin. T'sais, c'est pas... J'allais vous demander des stratégies précises à appliquer, mais juste une attitude positive envers... L'événement en tant que tel, j'avais mon amie qui parlait dans le dernier podcast qu'elle avait fait des muffins avec ses enfants, puis que c'était tellement le fun, puis qu'à Noël, c'est important que tout le monde mette les mains à la pâte, même si c'est juste pour mettre un peu d'épices par-ci par-là, parce qu'elle disait, tu sais, c'est l'implication de tout le monde, puis tout ça, puis elle disait aussi que c'est un moment vraiment d'amour, là, à partager ensemble.
Tout fait
que si on met les enfants dans un contexte comme ça, ça va faire des bons mangeurs positivement, là, en voulant dire des relations très saines avec l'alimentation.
Tout à fait.
Okay. Puis au niveau, ça me pop comme ça dans la tête, au niveau des sportifs, est-ce que vous travaillez beaucoup avec des sportifs? Je sais qu'il y a certaines demandes aussi dans le sport de haut niveau ou dans les sports plus de fitness. Ou même au gym, des gains de masse musculaire impressionnants ou du bodybuilding, genre de choses comme ça, ou du bikini, là, whatever. Ça prend énormément de discipline, ça prend puis on voit aussi beaucoup de fadeur dans les plans alimentaires. Donc ça doit... Moi, j'ai beaucoup de gens qui ont eu le backlash de ça aussi, là. J'étais tellement précise, disciplinée dans ce que je faisais qu'à un moment donné, c'est comme... Ça a renversé la vapeur complètement. On a arrêté ça complètement. Donc, ça aussi, c'est comme... Ça demande une discipline exceptionnelle pour manger. C'est sûr que les résultats sont exceptionnels aussi, donc c'est intéressant. Mais c'est quoi les impacts par la suite pour cette personne-là? Surtout sachant que pour beaucoup de personnes, c'est tellement serré, tellement suivi que ça en vient à devenir l'inverse pour ces gens-là.
C'est vrai. Parce qu'on retourne encore une fois à la privation, il faut faire les choses d'une façon stricte. Mm-hmm. C'est ça, c'est l'effet de se priver, d'avoir quelque chose de super strict. En fait, c'est ça qui peut être aussi un déclenchant d'un autre combat.
Exact.
C'est ça. Parce que parfois, on prend aussi l'idée que ça doit être discipliné comme ça. Ou « it's all or nothing ».
Puis même dans un processus de mise en forme générale, bien des fois, c'est l'idée qu'on entend. Il faut que ça soit...
C'est stressant.
Non, on a un demi-livre de trop, une demi-livre en moins. Là. Ça crée... Oui, OK, tu mentionnes le stress.
Oui, ça crée un stress psychique, beaucoup.
OK.
Tu veux être parfait, c'est la perfection qu'on va aller chercher.
Mm-hmm.
C'est pour ça que ça devient difficile. Parfois, on ne peut pas atteindre cette perfection et on perçoit la perfection différemment d'une personne à l'autre. On met des attentes sur nous-mêmes. On est harsh sur nous-mêmes.
Oui, c'est ça.
C'est souvent ça qui... on peut peut-être endurer ça pour un certain moment, mais ça va déclencher. On va...
Puis pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'impose ça?
Parce que c'est possiblement la société qui nous... c'est plus...
On jase,
dis-moi on veut être parfait. Mm-hmm. On veut que tout soit très bien. On est vu par les autres. Je suis dans le domaine... Pas je suis, mais si personne se dit, je suis un sportif d'élite, il faut être le modèle, il faut que les gens me voient, je suis parfaite, j'ai la vie parfaite, j'ai le body parfait, je mange parfaitement.
Okay.
Puis il y a aussi le truc qui est sorti sur les blogs, c'est pas tous les blogs, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ont des blogs de santé, mais ils ont une vie misérable, ils ont des problèmes psychiques, beaucoup de privations. Parfois, on porterait une image, mais en dedans, on n'est pas cette image qu'on porterait.
Donc c'est ça, puis surtout à l'ère des médias sociaux, là, donc l'image, les images qu'on reçoit, c'est pesant.
Mm-hmm.
Moi, je sais que, moi, personnellement, ça, c'est le genre de choses qui me rejoint, là. Je mentirais si je disais que quand je vois des gens super en forme, puis que, tu sais, c'est le super mode de vie, ou même, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est les gens qui font du yoga, là, les corps de yoga, je trouve que c'est des corps extrêmement pleins de vitalité, forts et flexibles et tout ça, je suis vraiment impressionnée par ça, donc... c'est sûr que peut-être, après ça, quand on est plus vulnérable à ce genre d'image-là, puis qu'on on a une tendance à se dévaloriser ou à trouver que ce qu'on fait, c'est jamais suffisant, ou qu'on n'est jamais suffisant, ou que c'est jamais assez beau, ou assez mince, ou assez musclé, là, on vient à avoir des genres de comportements-là plus drastiques. Parce qu'on pense que c'est ça qui va nous amener à cet état de perfection-là, mais pendant ce temps-là, comme tu dis, privation, stress... c'est ça, dans le fond, discipline, puis on se rend plus malheureux en fin de compte, à force de le faire. Je dis pas que c'est pour tout le monde, mais ça arrive.
C'est pour ça qu'il faut être en fait accompagné par la diététiste et par d'autres professionnels de la santé dans tout le processus, mais pas aussi pendant le processus, mais après le processus aussi, après les événements sportifs. Donc,
exactement, parce qu'il y a une planification autour de ça. Il y a certaines performances qu'on veut avoir vers une compétition en général, une compétition ultime. Je pense au fitness, par exemple, ou à n'importe quel... il y a beaucoup de sports aussi qu'on se prépare en vue, de, par exemple, des Olympiques. Okay? Mais ça... il y a des façons de manger autant que de façons de s'entraîner vers ce pic-là.
De performance.
Puis c'est ça. Puis rendu au pic, il faut retrouver la normale. Donc, retrouver la normale, ça consiste en quoi? On mange quoi? Je trouve que c'est la même chose. Puis Madonna et moi, on a travaillé ensemble sur beaucoup de clients. Puis on s'en rend compte aussi comment que, bon, on est en perte de poids, en perte de poids, en perte de poids. À un moment donné, il faut slacker la perte de poids. Tu sais, si on veut être capable de la repartir du bon pied, puis même, j'ai déjà proposé ça à une cliente pour faire un test. Si je te rajoute 300 ou 500 calories dans ta journée pour te mettre dans une phase de maintien, tu réagis comment? Ça fait émerger beaucoup de choses aussi.
Exactement.
Manger plus de calories, donc manger plus des grosses portions, tout ça. Des fois, il y a une friction, là. C'est comme... Ah, puis encore une fois, ça soulève ce qu'on parle. C'est de dire... Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que tu as autant de résistance face à ça? Parce que c'est ça que tu dois manger. Mais on est tellement dans la tête qu'il faut faire attention que même le format régulier, le format normal de ce qu'on devrait faire est difficile à accepter puis à aborder.
Oui. Et il faut ce qu'on prend, c'est vraiment de manger à sa faim, d'écouter ses signaux de faim, d'écouter ses signaux de satiété, de savoir vraiment arrêter quand on n'a plus faim ou manger, apprécier manger et arrêter de manger quand on ne veut plus manger.
Puis ça, c'est un apprentissage aussi.
Oui, ça se développe.
C'est vraiment un apprentissage. C'est ça. Donc, je trouvais ça intéressant de voir le côté aussi du côté ultra-discipliné qui peut, des fois, cacher certaines choses, même si de l'extérieur, ça paraît... C'est très, on faut vraiment leur donner tout le mérite parce que c'est extrêmement difficile de manger bien, toujours bien comme ça. Puis aussi c'est pas tout le temps le cas, mais on avait déjà soulevé aussi la fadeur de ce type de régime-là. Des fois, brocoli vapeur, poitrine de poulet au four là avec pas grand-chose dessus. Donc ça aussi, ça joue sur les émotions, right? Ça aussi, c'est un autre... Donc c'est bien, j'adore ça. Donc je pense que une chose que je retiens beaucoup de notre conversation, c'est premièrement, c'est les types de problématiques auxquelles on fait face, puis à quel point faut si on veut que les choses changent, par exemple, si on veut se sentir mieux, si on veut atteindre des objectifs d'entraînement, de composition corporelle ou peu importe quel objectif vous avez, il faut se pencher sur la question. T'en as mis un outil que je trouve, moi, que je recommande toujours à tout le monde, c'est de faire un journal alimentaire pour commencer à se rendre compte de déjà à quelle heure je mange, qu'est-ce que je mange, comment je me sens. Ça, c'est déjà un premier pas énorme. Puis après ça, d'amener cette espèce de proof là, de preuve là, ou de portrait de notre alimentation vers un professionnel qui, elle ou lui, nutritionniste, diététiste, peut commencer à entamer le processus de découverte puis de modification de ses habitudes à ce moment-là.
On parle beaucoup d'outils. On a parlé du journal alimentaire, mais c'est aussi notre attitude envers ce journal alimentaire. C'est de ne pas voir ça comme une punition. Là, il faut que je mange. J'écris tout ce que je mange, mais il faut en fait de voir ça dans une façon de se découvrir, d'utiliser ça pour apprendre plus sur moi-même, sur mes habitudes. Et ça, c'est des choses que la nutritionniste ou la diététiste, en force de parler ou de voir ça ou de regarder le journal alimentaire avec la personne, c'est là où, bon, il y a beaucoup de choses qui se sortent.
Exact.
Pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai senti après ou avant manger ça, est-ce que j'avais faim quand j'ai mangé ça. C'est un très gros sujet, mais c'est très important d'avoir un outil et, encore une fois, de travailler avec une diététiste qui peut nous aider, nous
exact.
Donner un guide.
Exact. Puis je pense que ce qui ressort de ce que tu viens de dire, à mon avis, c'est à quel point c'est important de faire cette démarche-là pour nous-mêmes en allant chercher, la bonne information pour notre situation. Parce que tout ce que tu viens de dire, tu m'as dit, mon Dieu, que c'est complexe.
Oui.
Est-ce qu'on veut vraiment avoir ça entre les mains ou sur nos épaules de chercher? On ne sait même pas ce qu'on a besoin de savoir pour régler certaines choses. Donc, c'est vraiment important d'être avec quelqu'un qui nous dirige vers ce genre de conversation-là selon ses observations, puis selon toutes les compétences de cette personne-là, de cette professionnelle-là qu'on peut aller chercher pour nous aider par la suite. Donc, Madonna, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Ça, c'est correct. Ça va, c'est pas mal ça. Donc, moi, c'est pas mal ce que je retiens. Je retiens aussi les trois points que tu disais au début, identifier la difficulté, consulter une personne, puis la troisième chose, c'était
de se renseigner, de cibler le problème, de vous renseigner et de demander de l'aide aux professionnels, donc le nutritionniste et d'autres professionnels de santé.
Parfait. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de la nutrition, Madonna, pour terminer?
Beaucoup au
courant du mois, oui.
Beaucoup d'événements à travers tout le pays, à travers le Canada. Et d'ailleurs, à Montréal, on a l'Expo Manger Santé le 24.
Oui, tu vas y être.
Oui, on
excellent. Tu avais un kiosque?
Oui.
Good.
Kiosque numéro 203.
Ah!
Précisément.
Oui.
Excellent. On sera là pour répondre aux questions. Donc, le 24, le 25 et le 26 mars.
Excellent. Super.
Moi, je veux juste dire quelque chose. C'est pour les ressources fiables. On avait parlé beaucoup de trouver des ressources fiables comme le site web. Je pense que ça, c'est une petite partie qu'on doit mentionner aussi, les gens, pour trouver de l'information. Mais il y a le site web de Diététiste de Canada. Il y a le site web du mois de nutrition 2017.ca. Il y a Diabète Québec, la Fondation des maladies de cœur. On a aussi Eat Right Ontario pour les anglophones.
Parfait.
Puis c'est ça, c'est juste quelques petites ressources, mais en fait, c'est juste pour dire aux gens, juste pour donner quelques outils en tant que...
Oui, c'est super.
En tant qu'information.
C'est beaucoup des sites gouvernementaux, si je comprends bien, des organisations...
C'est ça, c'est
vraiment dominante dans l'industrie de la santé.
Mais c'est juste quelques exemples, mais en fait, en regardant une source d'information, il faut tout le temps être un peu critique et demander quelques questions. Est-ce que la personne qui écrit, est-ce que la personne est fiable? D'où vient cette information? Est-ce que c'est basé sur des données scientifiques?
Exact.
Est-ce que c'est seulement une étude qu'on y parle et là, on va aller manger X aliment qui est super miraculeux?
Oui, c'est ça, ou ce genre d'informations-là
qu'on va chercher. C'est ça, le truc, je pense que...
Si vous êtes comme moi, ben vous allez vous dire, moi, je veux pas me casser la tête avec ça, donc je vais demander à quelqu'un qui m'aide, donc je vais consulter ma nutritionniste. Madonna, qui est ma nutritionniste, d'ailleurs, vous savez. Donc, justement, quand je voulais faire un virage plus vers une alimentation végétarienne, mais c'est surtout que je suis allée voir, puis on a regardé ça ensemble, puis c'est tellement... Même, je vous dirais que quand je vais dans mes cours d'haltérophilie, puis que j'ai mon entraîneur qui me dit exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, quelle charge je dois faire, c'est quoi mon entraînement, moi je suis aux anges, là. Ça fait tellement du bien de pas avoir à se casser la tête sur ce qu'on va faire aujourd'hui, tout ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de mettre ça entre les mains d'une personne professionnelle qui nous aide. Donc, pour terminer, si vous avez, à toutes les personnes qui écoutent en ce moment, puis qui ont une certaine problématique, qui ont mis le doigt dessus ou pas encore, mais qui ont des objectifs d'entraînement qui cherchent à atteindre, puis que l'alimentation joue un rôle vraiment important dans leur contexte personnel, ça serait quoi un conseil de pro, de nutritionniste que vous pourriez leur donner pour mettre fin ou tenter de mieux gérer cette difficulté-là face à leur habitude alimentaire?
Moi, je vais parler pour tout le monde, pas seulement pour les gens qui ont des objectifs d'entraînement. Oui, okay. pour tout le monde, objectifs d'entraînement ou objectifs alimentaires ou autres. En fait, moi, ce que je peux leur dire, c'est en fait la première chose de prendre conscience.
Okay.
De prendre conscience de notre réalité, de notre objectif, de nos obstacles,
mm-hmm.
De toutes les choses qui peuvent nous affecter. Et si la personne a décidé de faire des changements, c'est de faire un changement à la fois. C'est de mettre des objectifs qui sont réalistes,
mm-hmm.
Pour que la personne puisse continuer, en fait. Et aussi de demander l'aide, idéalement d'aller à travers le professionnel de santé spécialisé, qui est une diététiste,
mm-hmm.
puisqu'on parle de l'alimentation.
Oui, bien sûr.
Donc c'est ça. Et aussi, vous allez entendre beaucoup vos diététistes ou vos nutritionnistes, on parle beaucoup de la modération. Je ne sais pas si c'est ce que Madonna voudrait.
Okay.
Donc, je te donne la parole.
Oui, certainement. En fait, ça va vraiment en lien avec ce que Joël disait par rapport à la modération. Prendre conscience de ce que l'on mange et apprécier ce qu'on mange et le moment de manger aussi.
OK.
Donc, c'est vraiment...
Donc, toi, si tu avais comme une chose à dire aux gens, ce serait de dire commencer à changer peut-être l'attitude
vis-à-vis
de l'alimentation. Donc, apprécier ce qu'on mange, puis de prendre le temps de préparer, puis de faire des choix qui sont judicieux, puis qui sont appropriés pour nous-mêmes.
Oui,
excellent.
Exactement. Oui.
Bon, mais j'adore ça. Merci les filles. Vraiment,
merci.
Je suis vraiment chanceuse de vous avoir vu. Vous êtes top. Donc, j'espère que...
Donc, pour vous qui écoutez en ce moment, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça a éclairé certaines difficultés que vous pouviez avoir, peut-être dont vous aviez conscience ou pas. Merci d'avoir été avec nous pour ce deuxième épisode du podcast en lien avec le mois de la nutrition. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode dans lequel on va aborder le sujet du combat avec les aliments, mais d'un point de vue de la psychologie alimentaire. Donc, soyez là, puis on se reparle très bientôt. Bye bye!